21 mai 1969, on parlait de l'annonce de la création du parc national Forillon. Ça allait devenir donc le premier parc national au Québec. C'était fait par Jean Chrétien. Pour revenir sur cet événement qui a marqué l'histoire, Jean-Marie Thibault est avec nous. Donc, ça fait 50 ans aujourd'hui. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre offre pour parler évidemment de ce moment important de notre histoire. Mais avant d'arriver à cette annonce, en 69, le 21 mai, il y a eu du travail d'effectuer là, pour pouvoir aller de l'avant avec ce parc, pour la création du parc en Gaspésie, ce premier parc national.
Oui, c'est une longue histoire, OK? Il y a tout aussi, à l'époque, une espèce d'engouement pour l'urbanisation, les campagnes, les régions, OK? Ça vaut pas grand-chose. Puis en même temps, en 1960, à Montréal, on a un taux de chômage de 3%, donc on manque de main-d'œuvre, aller chercher du monde, entre guillemets, les sortir de la misère, supposément. Là. Il y a un film assez spécial qui a été fait là-dessus, Gros Morne. Là. Donc, tout ça mis ensemble, là, fait qu'on s'intéresse drôlement à notre coin de pays. Puis c'est dans ce Québec-là, dans celui des années 60, que Jean Chrétien va annoncer, le 21 mai 1969, là, que, et je cite, là, « La province de Québec mettra le territoire du parc de Gaspé, on ne l'appelle pas encore Forillon, donc le territoire du parc de Gaspé à la disposition du gouvernement du Canada pour une période de 99 ans. »
Mais pourquoi avoir choisi la Gaspésie et Gaspé pour établir un parc national du côté du gouvernement? Fédéral?
Bien, d'entrée de jeu, là, personne ne peut nier ça, là. C'est un paysage assez exceptionnel, hein? La Gaspésie, c'est beau dans son ensemble, et Forillon en particulier. Ça, c'est peut-être une première raison qui a fait qu'on a jeté l'œil, mais il n'y a pas juste ça. Deuxièmement, la situation économique dans ce qu'on pourrait appeler là, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et les Îles-de-la-Madeleine, elle est moins bonne qu'ailleurs au Québec, particulièrement à Montréal. Donc, notre taux de chômage, nous autres, il est plus élevé. Il n'est pas dramatique pour nos yeux d'aujourd'hui. Il est de 8,5%. Mais pour l'époque, c'est beaucoup. Troisièmement, il y a une faible densité de population à Forillon. Donc, ça, c'est pratique quand tu veux mettre le monde dehors, OK? Ça en fait moins à expulser. Certains disent expropriés. Moi, je dis expulser, c'est plus facile. Et quatrièmement, et c'est pas moins important, bien au contraire, la pointe de la Gaspésie, là, OK? Le Cap Gaspé, Gaspé, puis les environs, c'est la porte d'entrée du Québec habité. Et à l'époque, dans les années 60, il y a une confrontation qui s'est déjà amorcée entre les nationalistes et les fédéralistes. Les fédéralistes veulent mettre le pied au Québec. Ils veulent avoir littéralement un territoire, un parc. Jean Chrétien va nous dire, et il n'y a pas tort, que dans toutes les autres provinces canadiennes, dans les 9 autres, il y a des parcs nationaux, et que nous, au Québec, on refuse d'en avoir un. C'est pas complètement faux, OK? Mais ils nous traitent de nationaleux, et qu'on refuse l'argent du fédéral. En fait, le fond de l'histoire, c'est que dans les autres provinces, on n'a jamais été chaud non plus à céder du terrain. Dans l'Ouest, par exemple, Banff-Jasper, ces parcs-là ont été créés avant que les provinces soient créées. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une bonne collaboration, nécessairement, là, c'était fait avant le coup. Jean Chrétien, on le connaît, il est fort pour la vente. Il va même dire à Gaspé dans une réunion, là, on est prêt à investir hier. Tout ce qu'on veut, c'est créer un pacte pour aider les Gaspésiens. Donc,
parce qu'il y avait beaucoup, de promesses aussi dans l'arrivée de ce parc-là par rapport au tourisme et par rapport aux emplois. Là.
Ah oui, c'est des milliers, des projections qu'on a faites de milliers et de milliers de touristes. Et on a promis aussi 3000 emplois. Bon, les Gaspésiens de l'époque n'étaient pas stupides non plus. Ils ont dit 3000, c'est peut-être beaucoup. Mais si on en promet 3000 puis qu'on en a 1500, c'est moi qui dis ça, là, ça se fait quand même bon. Donc, 3000 jobs, là, j'ai une citation de Guy Fortier là-dessus. Guy Fortier qui était député provincial de Gaspé. On promet donc beaucoup de choses. Et dans le parc Forillon, les plans sont dessinés avant 1970. Là. On parle de 2 centres d'achat, de terrain de golf. On parle même à certains moments de réchauffer l'eau de la baie en partie, c'est le délire total. On veut faire aussi une autoroute à l'allemande, là, une autoroute où il n'y aurait pas de limite de vitesse entre Gaspé et Percé en passant par en arrière, une ligne droite. On parle également d'exproprier tout le monde sur le bord de la mer entre Gaspé et Percé, incluant donc là où je réside à Saint-Georges-de-Malbaie. Dans tout ce délire-là, moi je me dis toujours, heureusement, ils ont manqué d'argent.
Oui, parce qu'au début, c'était un projet qui était beaucoup plus grand que ça, comme ce que vous venez de dire, ça incorporait donc la ville de Gaspé puis ce lien avec Percé. Alors, vous dites, évidemment, on a manqué d'argent pour réaliser tout ce grand projet-là. Et maintenant, du côté du parc, ça a été assez rapide aussi parce qu'on a amené une loi spéciale pour aller plus vite. Là, pour.
Oui, il y avait déjà une loi qui permettait l'expropriation des gens au Québec, mais on a voulu justement activer, c'était pas assez rapide. Donc, on a créé une nouvelle loi, puis on l'a mis assez large. C'est la loi sur le parc Forillon et ses environs. Dans cette loi-là, c'est là qu'a été créé le Grand Gaspé, là, de Lanse-Avallo à Fort-Préville, et le Grand Percé qu'on connaît aujourd'hui. Ça vient directement de la même loi, et bien entendu, il y avait plusieurs clauses dans cette loi-là. Ça permettait d'aller plus rapidement. Donc, on va procéder, et en juillet, je te fais remarquer que c'est juillet 1970, la période où les journalistes sont en vacances, les gens écoutent moins les informations, c'est là qu'on va émettre les avis d'expulsion, d'expropriation, comme on dit. Et les gens, là, vont s'apercevoir qu'il y a un problème. Parce qu'on n'avait jamais parlé d'expropriation antérieurement, ou très peu, OK? On avait parlé d'exproprier des fanges côtières, autrement dit des bords de mer, des belles plages, et l'arrière-pays. Et à ça, on avait ajouté immédiatement 3000 jobs. Donc, même les gens là de Grande-Grave ou d'ailleurs dans le parc Forillon, eh bien, ils disaient, même si on perd notre terre à bois, on va avoir un job à l'année, puis ça va être beau, puis ça va être correct. En 1970, en juillet 70, là, ils vont être avisés qu'ils n'ont que 18 mois pour s'en aller. C'est fini. À partir de ce jour, ils ne sont plus chez eux. On les tolère là pour une courte période, le temps qu'ils s'en aillent. Deuxièmement, ces gens-là ne savent même pas combien ils vont recevoir pour leur maison. Donc, imagine-toi, si tu es un exproprié, tu t'en vas à la banque, tu veux faire un emprunt pour te construire ailleurs, puis le banquier te dit « oui, tu as combien d'argent? » Tu dis « j'en ai pas. Combien tu vas recevoir? Je le sais pas. » Ben, le banquier lui dit « tu reviendras. » Donc, des gens se retrouvent dehors avec pas une scène. Peut-être quelque chose qui va venir, puis on sait que les sommes qui vont arriver beaucoup plus tard vont être dérisoires. Ce qui se produit, c'est que les parcs canadiens, c'est des créations canadiennes, donc fédérales, OK? Mais le fédéral, lui, pour créer son parc jusqu'à Forillon, il exigeait qu'il n'y ait pas d'être humain qui habite dans le parc. Donc, le provincial, avant de céder son territoire, devait mettre les gens dehors, devait exproprier les gens. C'est donc le gouvernement provincial, poussé par le fédéral, mais le gouvernement provincial de Robert Bourassa à l'époque, qui va exproprier les gens. Puis, après coup, on va remettre ce terrain-là au gouvernement fédéral.
Alors, c'est Québec qui négociait pour payer, en tout cas parce que les expropriés ont finalement réussi à avoir un certain montant d'argent pour leur demeure. Est-ce qu'on a négocié avec Québec ou c'était le fédéral à ce moment-là aussi?
Ben, les deux paliers de gouvernement étaient impliqués, mais c'était particulièrement Québec. Et un jeune avocat du parc Forillon, dont le père lui-même avait été exproprié, Lionel Bernier, est allé en cours après qu'on a donné un certain montant, qu'on a promis un certain montant très bas aux expropriés, et il est allé au nom d'un petit nombre d'expropriés non satisfaits. Et ça a pris comme de raison quelques années, mais le juge lui a donné, même s'il était tout seul devant la batterie des avocats du provincial, du fédéral, qui avait de l'argent de façon illimitée, lui, presque tout nu, est allé là-bas. Et le juge lui a donné raison. On est allé en appel. L'autre juge a donné encore raison, si bien que les expropriés ont eu quand même un peu plus. Mais attention, ils n'ont pas eu de fortune. Ils se sont retrouvés avec pas grand-chose. Il y a des gens, par exemple, je parlais à un exproprié qui a eu 10 000 $ pour une grande propriété avec une grande maison, et puis se retrouvant, voulant se construire après pour un petit bungalow, ça lui a coûté 30 000 $. Je sais qu'on est en argent de l'époque, mais c'est un peu comme si moi, on me mettait dehors aujourd'hui pour 50 000 $, puis ça me coûte 150 000 pour me reconstruire. Mm-hmm. Tu te retrouves à 60 ans avec une hypothèque de 100 000 $. C'est pas intéressant.
Bon, alors, ça s'est terminé comment après l'expropriation? Les travaux ont été rapides. On a brûlé des maisons, on a éliminé. Expliquez-moi un peu la suite des choses, là.
Bon, ben, il y a même des gens qui prétendent qu'on n'a pas brûlé de maison, OK? Je cite Geneviève Gélina qui elle-même citait Maxime Saint-Amour le 15 août 2010. Saint-Amour nous dit « On a dramatisé quelque chose qui était déjà dramatique. Les maisons n'étaient jamais brûlées debout. Elles étaient dépouillées de tout ce qui était vendable, puis défaites avant d'être brûlées. Quant aux démolisseurs, c'était quand même des Gaspésiens, souvent eux-mêmes expropriés, qui avaient à cœur de ne pas faire trop de mal. » Ben là, OK? C'est vrai que c'est des gens souvent eux-mêmes expropriés qui ont brûlé les maisons. Mais il n'y avait pas le choix. Ils se retrouvaient avec rien du jour au lendemain. Bon, on leur disait, veux-tu une job? Oui, OK. Ben, ta job, ça va être d'aller brûler les maisons. Et il y en a qui ont brûlé leur propre maison. Mm-hmm. Donc, ça s'est fait, je le répète, de façon très, très sauvage. OK. Et je le dirai jusqu'à la fin de mes jours.
Pour terminer cette partie, évidemment, de l'annonce, la transition, l'expropriation et l'ouverture.
Bon, on a commencé à s'activer en 1971, OK, et il y a eu des investissements, bien entendu. Il y en a encore, mais ça n'a jamais été la manne, la panacée qu'on avait annoncée, bien entendu. On a dit aussi, là, et c'est bien vrai, que c'est une exception. Le parc Forillon, il a été loué au gouvernement fédéral dans un bail emphytéotique, c'est-à-dire un bail de longue durée de 99 ans. On dit, et c'est vrai, qu'au bout de 60 ans, donc dans 10 ans précisément, le gouvernement provincial pourrait reprendre ses droits et exclure le fédéral. C'est dans le bail. Ça, c'est vrai, mais c'est de la théorie. On voit pas comment, dans 10 ans, le gouvernement provincial pourrait rembourser, parce qu'il devrait tout rembourser, ce que le fédéral a investi, incluant les salaires des gens, ce que le fédéral a pu donner pour n'importe quel investissement à gauche et à droite. Ce serait une somme faramineuse, surtout si c'est le fédéral qui fait le calcul.
Bien, ce sera donc à suivre dans 10 ans. On pourra peut-être se reparler à cette époque-là ou à ce moment-là. Mais Jean-Marie Thibault, historien, merci de nous avoir rappelé justement ce 21 mai 69, l'annonce de la création du parc national Forillon par Jean Chrétien à l'époque. Merci.
Bon, ben ça m'a fait plaisir, puis je te prédis que dans 10 ans, le PAC va rester au fédéral.
Merci.
Bye-bye.